Gardez vos yeux fixés vers le ciel. Aujourd'hui, on a terminé une série la semaine dernière sur l'évangile de Luc. Presque un an passé dans cet évangile. Les derniers versets nous permettaient de voir Jésus quittant ses disciples. Et montant vers le ciel, il dit, au verset 51, Luc 24, 51, « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. » Et on aimerait garder maintenant nos yeux fixés vers le ciel. Pensez-vous souvent au ciel ? Comment imaginez-vous le ciel ? L'attendez-vous avec espérance? On ne pense pas au ciel quand notre vie est tellement agréable, tellement facile sur la terre. Mais si vous étiez de ces familles chrétiennes d'Irak que l'on chasse, si vos enfants étaient mis à mort simplement pour être chrétiens, si vous perdiez tout et si vous deviez fuir, ou bien si vous étiez sur un lit d'hôpital, n'ayant plus que quelques jours à vivre, ou bien si votre vie partait en éclats, votre conjoint, votre travail, vos enfants, est-ce que le ciel ne deviendrait pas plus pour vous, plus réel, plus désirable, plus précieux? Nous sommes tellement satisfaits de notre vie ici-bas que nous finissons par ne plus nous languir du ciel. Pourtant, le modèle que nous trouvons en Abraham, il est dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Pourtant, si nous sommes chrétiens, le ciel, c'est notre demeure. Si nous sommes chrétiens, le ciel, c'est notre patrie. Nous sommes citoyens des cieux. C'est là où Jésus nous demande et nous invite à amasser un trésor dans le ciel. Et donc, ce matin, on aimerait commencer une nouvelle série sur le ciel. Et je vous propose de voir comment ça sera, le ciel. Chacun a des conceptions peut-être particulières. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde que le ciel sera nouveau. Ce sera nouveau. Ce sera indescriptible. Et puis, ce sera divin. Revenons sur nouveau, et je vous invite à chercher dans votre Bible l'Apocalypse, chapitre 21. On va faire la lecture des premiers versets, versets 1 à 5, et puis ensuite on retournera dans quelques versets un petit peu plus loin dans le chapitre. Apocalypse, chapitre 21, il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » À plusieurs reprises, il est dit ici que le Seigneur fait toutes choses nouvelles, que ce seront des nouveaux cieux et des nouvelles terres. En grec, il y a deux mots pour dire nouveau. Le premier terme grec pour dire nouveau, c'est néos, et ça décrit quelque chose de chronologiquement neuf. Voilà, c'est le dernier modèle, c'est neuf, un vêtement neuf, c'est néos. Et puis il y a un autre terme, kainos, pour décrire quelque chose qui n'a jamais été, qui est nouveau mais dans sa qualité, nouvelle sorte. C'est traduit aussi sans précédent, inouï, inconnu ou encore inattendu, imprévu, différent de ce qui s'était produit jusqu'alors. C'est traduit aussi étrange et encore extraordinaire. Waouh, quelque chose de nouveau. Le ciel, la terre, c'est quelque chose de nouveau dans ce sens-là, c'est kainos ici. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais vu ici-bas, qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose de nouveau, d'un nouveau genre, d'une autre qualité, bien plus élevée. Certains imaginent le paradis, avec, et d'ailleurs c'est souvent notre expression, « Oh, c'était le paradis ». C'est-à-dire c'était une plage de sable fin et une eau claire, transparente, il y avait quelques palmiers, et puis il y avait aussi le soleil qui brillait, et des fleurs magnifiques, voilà, c'était le paradis. Mais la terre a disparu. N'imaginez pas le ciel comme ça, sur la plage. C'est bien la plage, hein. C'est beau, c'est mieux le ciel. Le ciel est mieux que ça, c'est une autre qualité. C'est une autre beauté. Peut-être vous avez ces images de la nature en fond d'écran. Les témoins de Jéhovah s'imaginent pour toujours sur cette terre à nettoyer les impuretés des premiers millénaires. Mais la terre ne sera plus. Les écologistes pensent que si on ne fait rien pour la planète, l'homme va disparaître de la terre. Mais la Bible dit tout le contraire. Il est dit ici que la terre et le ciel vont disparaître, que la mer aussi va disparaître. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mépriser cela, hein, au contraire. Il ne faut pas souiller ni gâcher la première création. Elle est belle, elle reflète un peu de toute la majesté divine. Mais on ne passera pas notre éternité sur cette terre. Dans notre passage, à ce moment-là de l'histoire, tous les ennemis de Dieu ont été jugés et ont été jetés dans l'étang de feu. Hein, ça, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 10, il est dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Et puis il dit, « Et puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Le diable et ses anges, les démons, tous les rebelles ont été jetés dans l'étang de feu. Au chapitre 21, verset 8, il est dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous ceux-là ont été jetés dans un lieu qui, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Restera un lieu de tourment, l'enfer, et puis une nouvelle création, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout ce que vous voyez ici va disparaître. Comme l'a annoncé Jésus en Luc 21, 33, il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et puis, une autre chose nouvelle, c'est Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem. L'ancienne Jérusalem, c'était la ville que l'Éternel avait choisie pour y mettre son nom. Et dans cette nouvelle ville sainte, et ça c'est vraiment nouveau, la sainteté, hein, regardez chapitre 21, toujours verset 27, il est dit « Il n'entrera chez elle, dans la nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Il n'y aura que des nouvelles créations qui pourront entrer dans la nouvelle Jérusalem, dans des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est pour ça que c'est tellement important, c'est capital d'être une nouvelle création. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans Galates, au chapitre 6, il dit « Ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Parce qu'on pourra pénétrer dans cette nouvelle terre et on devient une nouvelle création par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Je reviendrai sur la nouvelle Jérusalem un petit peu plus tard. Et aussi un peu plus tard. Mais je voudrais passer sur ce deuxième point maintenant, un lieu qui est indescriptible. Dans Ézéchiel, chapitre 1, on trouve un passage, je ne sais pas si vous aimez commencer le livre d'Ézéchiel, mais le chapitre 1 est assez extraordinaire. Ézéchiel, chapitre 1, il est dit au verset 1, comme j'étais parmi les captifs du peuple du fleuve du Kébar, écoutez ça, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le prophète, il est assis sur le bord d'une rivière, lorsque soudain, en un éclair, il est surpris par des cieux qui s'ouvrent devant lui. Regardez le chapitre 1, toujours verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée. Essayez, faites cet effort d'imaginer la chose, d'accord? Essayez de voir ce que Ézéchiel a vu quand le ciel s'est ouvert. Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, ça va toujours, et chacun avait quatre ailes. Je passe jusqu'au verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche et tous les quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi et ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les êtres vivants et ils jetaient une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Ça va toujours? Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais tous les êtres vivants et voici, il y avait une roue sur la terre, près des êtres vivants, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, Ses roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Facile. En cheminant, elles allaient de quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Ok. Quand les êtres vivants marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les êtres vivants s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Vous voyez la chose ? Pas bien. Heureusement, le pasteur Samuel m'a ramené un livre des États-Unis il y a quelques années avec des schémas. Et là, il y a un gars qui a passé probablement des années à dessiner ça. C'est approximatif parce que tout là, c'est en mouvement aussi, hein, il faut l'imaginer, et en couleur. Là, le dessin, c'est du noir et blanc. Le prophète, il s'efforce de trouver des mots appropriés pour pouvoir décrire ce qu'il a vu. Mais en fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il voit. Et il se contente d'un langage ordinaire. Ça reste des approximations. Vous avez vu, à chaque fois, il parle de... C'était comme... Ça ressemblait... C'est pas ça, mais ça ressemble un peu à ça. Regardez, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit à un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Waouh ! C'est quelque chose semblable. Ça a la forme de... Ça paraissait comme... C'était l'aspect de... C'était l'image de... Et Jean, dans notre chapitre 21, il dépeint aussi avec peine ce qu'il voit. Il dit dans notre passage... en Apocalypse 21, verset 11, il dit, verset 11, « Son éclat était semblable à celui d'une pierre, comme une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. » Vous voyez, c'est une approximation parce que, en réalité, c'est indescriptible avec les mots des hommes. Bien entendu, c'est compliqué, puisque ce sont des choses nouvelles qui n'ont jamais été. C'est des choses que personne n'a jamais vues, pour lesquelles il n'y a pas de mots. Mais voyez quand même, ils n'ont pas le moindre doute que la chose est réelle et qu'ils l'ont vue. Et s'ils l'ont écrit, c'est par ordre de Dieu. Hein, Apocalypse 21, verset 5, il dit, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, je veux que tu écrives ça. » J'imagine Jean dire, « Si j'écris ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Est-ce que je vais réussir à décrire ?» Il dit, « Écris ces choses. » Écris ces choses, écris ce que tu as vu, parce qu'elles sont certaines, et véritables. Mais en voyant ces choses, en voyant la gloire de Dieu et son ciel, ils sont tombés sur leur face. Voyez la chose, même si c'est indescriptible pour le langage des hommes, quand Ézéchiel décrit ce qu'il a vu, il tombe sur sa face. Il ne peut pas rester. C'est merveilleux. Jean, de la même manière, Jean, au chapitre 22 et au verset 8, il dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu !» Il dit « Mais pour lui, c'est, la révélation est tellement grande !» Que l'ange qui lui présente, il est prêt à l'adorer. Il dit, garde-toi de faire ça, moi aussi je suis un serviteur de Dieu. Voyez l'impression que ça a laissé dans leur cœur. Quelque chose de difficilement descriptible, mais de quelque chose de tellement grand, quelque chose de tellement merveilleux. En 2 Corinthiens, au chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui fait une expérience aussi extraordinaire. Au chapitre 12, versets 1 à 4, il dit « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Et le verset 7 nous explique que les choses qu'il a vues sont excellentes. Il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, » donc c'est bien Paul qui fait cette expérience, « à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. » Contrairement aux gens qui prétendent avoir fait des expériences de mort imminente, vous avez certainement déjà lu ou entendu des témoignages de personnes qui ont, dans un accident, ont vu la mort de près. Et ils ont, la plupart ont écrit des livres, font des conférences. Lui, l'apôtre Paul, il ne s'est pas vanté. Il ne s'est pas empressé d'écrire un livre sur son expérience. Et là, en 2 Corinthiens chapitre 12, il doit le faire. Mais il rechigne un peu à le faire. Il rechigne à en parler. C'est une expérience qu'il a faite il y a 14 ans. Et il rechigne à en parler parce qu'il sait que ses récits ne profitent pas à l'Église. On ne peut pas les vérifier. On ne peut pas les répéter. Et puis, ils engendrent de l'orgueil chez ceux qui font ce genre de récits. Mais il est contraint, pour développer son exposé sur l'utilité de la souffrance, il est contraint de le faire. Mais, regardez bien, il dit qu'il ne comprend pas vraiment la nature de cette expérience. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. En fait, presque peu lui importe, Dieu le sait, lui. Il parle de cette expérience à la troisième personne. Il dit « Je connais un homme qui... » Pourquoi il parle à la troisième personne? Non pas parce qu'il veut parler de lui à la troisième personne comme César, mais il parle à la troisième personne parce qu'il ne veut pas attirer l'attention sur sa personne. Parce qu'il perçoit le piège de l'orgueil. Vous avez remarqué aussi qu'il ne fait pas de description des choses qu'il a vues. Il ne parle pas de tunnels, de grandes lumières ou d'anges. Simplement, il évoque l'excellence de ses révélations. Il évoque aussi ce qu'il a entendu. Il dit, ce sont des choses qu'il n'est pas permis. Selon d'autres traductions, il n'est pas possible à un homme d'exprimer. De sorte que le voile qui délimite le ciel de notre monde, eh bien, il reste bien en place. Tout ce que nous avons besoin de connaître concernant le ciel est dans la Bible. Dieu nous a révélé ce que nous pouvions comprendre, ce qui nous était utile pour nous conduire jusque dans l'éternité, jusqu'au ciel. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, dit la parole de Dieu. La description qui nous est faite utilise aussi essentiellement des choses qui ne sont plus. Vous avez remarqué ça dans notre passage en Apocalypse 21, il dit verset 1, « Et la mer n'était plus. » Ce qui fait que nous vivons sur la terre, c'est parce qu'il y a de l'eau en abondance. Et parmi toutes les planètes, elle est facilement reconnaissable parce que notre planète est bleue. Elle brille différemment dans l'univers. Lorsque les astronautes explorent une autre planète, ils recherchent la présence d'eau parce qu'il n'y a pas de vie possible sans cette eau. La Bible décrit le cycle de l'eau, l'évaporation, et puis la précipitation, et puis la fertilisation de la terre, et puis le retour à la mer, etc. Le manque d'eau occasionne la soif. Et par extension, la Bible parle de toute soif. Tout ce qui est un manque crée une soif. La Bible parle de soif de pardon, soif de justice, soif de paix, soif de repos, soif d'amour. Au ciel, toutes ces soifs sont étanchées. Au verset 6, il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin à celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Il a la source, il ne peut plus avoir soif maintenant. Quand on est au ciel, il n'y a plus ce manque, il n'y a plus ce besoin. Il n'y a pas de frustré au ciel, parce qu'il n'y a pas de manque dans le ciel. Et puis, au verset 4, il est dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Il n'y a plus de larmes dans le ciel. Ça nous parle de l'absence de tout ce que nous pourrions déplorer. Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, il a dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Au ciel, il n'y a plus d'affligés. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de tristesse. Il n'y a plus de déception au ciel. Il n'y a plus de douleur. Imaginez la chose. Notre vie, elle est remplie de ces choses-là. Elle est remplie de tristesse, de déception. Notre vie, elle est remplie de douleur. Je pense que tout le monde a pleuré cette année. Certains ont pleuré cet été. Il y a eu des décès qui ont provoqué des larmes. Une autre différence de taille entre le monde actuel et celui qui est à venir, il est dit, la mort ne sera plus. Waouh ! La plus grande malédiction dont l'humanité a été frappée, c'est la mort. Et la mort même aura été jetée dans les temps de feu. Ça, c'est ce qu'on a lu en Apocalypse 20, verset 14. Il n'y aura plus de deuil, plus de deuil, plus de chagrin. La tristesse et la détresse qu'entraîne le deuil ne seront plus. Cette semaine avaient lieu les obsèques d'une de mes petites cousines, 18 ans, morte d'un accident de voiture. Quelle détresse! Peut-on se remettre un jour d'une telle perte si en plus on ne connaît pas celui qui a vaincu la mort, le prince de la vie, qui donne la vie à celui qui croit? On a appris le décès d'un bébé chez un jeune couple missionnaire. Et puis, l'une de nos sœurs a perdu sa maman. L'un de nos frères a perdu son papa. Ils ne sont pas là ce matin parce qu'ils sont auprès de leur famille. On a fait les obsèques de Marcel pendant l'été, Marie de Gisèle. Quand bien même nous aurions l'assurance de les revoir dans l'éternité, de les savoir, eux, consolés de tous leurs maux, la séparation provoque une grande détresse. Il n'y aura plus de deuil. Plus de séparation. Il n'y aura plus non plus de cris. Plus de cris. Le monde est rempli de cris d'horreur, cris de guerre, cris de dispute, cris d'effroi, cris de haine. Non. Plus de cris. Il n'y aura plus de douleur. Il est dit ici, il n'y aura plus de douleur. Dans le prophète Ésaïe, Ésaïe 53, il est dit, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dans l'éternité, ce sera le plein accomplissement de cette parole. Aujourd'hui, on connaît encore la maladie. On connaît encore la souffrance. On connaît encore l'infirmité. Mais le plein accomplissement de cette prophétie aura lieu au ciel. Elle nous a été acquise à la croix de Christ. Et puis par la puissance de sa résurrection. C'est sûr, nous le posséderons. Mais le plein accomplissement de ces choses-là, ce sera pour l'éternité. Dans l'absence de péché, source de tellement de douleurs, dans l'absence de maladie et d'infirmité, source de tellement de souffrance. Voyez-vous, notre ciel, il est indescriptible et pourtant ô combien désirable. Et puis enfin, j'aimerais voir que notre ciel est divin. Il ne faut pas confondre les signes que nous donne la parole de Dieu avec la réalité qu'il représente. Parce que nous ne pouvons pas saisir avec nos sens d'aujourd'hui ce que le ciel est pleinement. C'est un lieu nouveau, c'est un lieu indescriptible, comme on vient de le voir, où les choses premières, celles que nous connaissons, ont disparu. Mais Dieu veut garder ces choses dans notre perspective. Et il nous donne quelques images qui stimulent notre attente du ciel. Et déjà, les images sont belles. Alors, ça vaut vraiment le coup de penser au ciel et de rechercher le ciel. Vous avez déjà vu des panneaux de signalisation touristique sur les bords de la route. Ils sont marrons habituellement. Vous voyez de quel genre de panneau je parle. Quand vous arrivez à proximité d'une ville, vous avez un beau panneau qui montre un des aspects de la ville. Mais quand vous voyez le panneau, vous ne pensez pas que vous y êtes. Vous ne cherchez pas à vous garer, vous ne descendez pas de votre voiture pour admirer le panneau. Mais si c'est votre destination, alors votre cœur commence à se réjouir. Vous y êtes bientôt. Et déjà, par le panneau, vous pouvez imaginer, anticiper la chose. La nouvelle Jérusalem a des dimensions surprenantes. Vous avez remarqué dans notre passage en Apocalypse 21, verset 16, il est dit « La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et il trouva 12 000 stades de la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. » C'est un cube. Un cube. Un cube parfait de 2 200 km de côté. Mais peut-être quelqu'un dira, mais habiter l'éternité dans une boîte, bof. Alors, vous êtes tombé dans le panneau. Vous êtes en train de prendre le panneau pour la réalité. Mais qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer ? Dans l'Ancien Testament, il y a aussi d'autres images de ces choses. En 1 roi au chapitre 6 et au verset 20, 1 roi 6, 20, il est dit « Le sanctuaire avait 20 coudées. » Il parle du temple, c'est la description du temple. Hein. Le sanctuaire, c'est le lieu très saint. C'est là où il y avait l'arche, c'est la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le verset 20, le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Et il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. C'est aussi un cube. Et c'est le cube, sauf que le ciel est, j'ai fait le calcul, est 200 000 fois plus grand. C'est un cube 200 000 fois plus grand. Ok ? Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance et la gloire de Dieu. Personne ne pouvait entrer dans ce lieu qui symbolisait la présence même de Dieu. Et Paul dit, je voudrais lire quelques versets, on est en Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 16, il fait une doxologie magnifique à la fin de son épître, je ne suis pas dans la bonne, voilà, verset 16, il dit, il rend gloire à Dieu, le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et puis dans l'évangile, dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 2, il nous est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh ! Je trouve ça extraordinaire. Il dit, tout l'Ancien Testament nous parle de ce tabernacle, de ce temple, de ce lieu très saint dans lequel personne ne peut aller sauf le souverain sacrificateur une fois par an après avoir fait toutes sortes de purifications pour sa personne et simplement une fois pour pouvoir faire la purification pour les autres. Et ça, il parle de lui en tant qu'image de Jésus-Christ qui va faire la purification pour nos péchés dans la présence même de Dieu. Paul, il dit, Dieu habite une demeure inaccessible. Personne ne peut y entrer. Et Jean, il dit, bien-aimé, si nous sommes enfants de Dieu, nous entrerons. Nous le verrons. Nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. Il faudra avoir été changé, même physiquement, pour pouvoir le faire, parce qu'on ne peut pas entrer dans sa présence et vivre. Jésus avait dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous sommes entièrement purifiés par la foi en Jésus-Christ. Fini le temps où nous étions éloignés de lui, où nos péchés nous cachaient sa face. Fini le temps où notre corps d'humiliation ne pouvait se tenir devant Dieu et vivre. Nous serons changés et nous vivrons continuellement dans sa présence. Paul, en pensant à cela, il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Quand Paul pense au ciel, il dit, oh, je voudrais y être. Je termine avec un sondage. C'est un sondage qui a, vous voyez à peu près, un sondage qui a paru, un sondage CSA qui a été fait pour le magazine La Vie, 13 juillet 2010. C'est intéressant, regardez ça. La question qui était posée, si le paradis après la mort existait, pour vous, ce serait plus tôt. Et là, les gens devaient répondre, faire trois choix. D'accord ? Ils avaient trois cases qu'ils pouvaient remplir. Il y avait l'amour, retrouver ceux que j'ai aimés, vivre la paix éternelle, le confort, ne plus souffrir, connaître le bonheur parfait. Il y avait la possibilité de répondre, les récompenses liées à l'activité terrestre, une consolation pour ceux qui ont été malheureux, une récompense pour ceux qui ont bien agi. Il y avait une réponse plus religieuse, spirituelle, rencontrer Dieu, communier avec l'univers tout entier. Et puis il y avait une réponse tout à fait hédoniste, être toujours jeune, pouvoir satisfaire tous mes désirs. Et donc, c'est intéressant, c'est les Français qui répondent, et sur les trois choix qu'ils avaient à faire, deux tiers ont répondu, voilà, retrouver ce que j'ai aimé, c'est l'amour. Un tiers a répondu, le confort, plus souffrir, voilà, connaître le bonheur. Un tiers encore a répondu, la consolation, les récompenses. Remarquez ici, 11% ont répondu rencontrer Dieu. Je trouve que c'est extraordinaire cette réponse. 11%. Ils avaient trois choix. C'est-à-dire que ce n'était peut-être pas forcément le premier choix, ni le deuxième, ni le troisième. Mais pour 89%, le fait de rencontrer Dieu, ce n'était pas dans leur pensée du paradis. Rencontrer Dieu, ce n'était pas dans leur pensée. Des sondés, et alors, vous avez remarqué là, 11% ici, 11% des catholiques, ils tiennent une bonne moyenne, donc le magazine La Vie, c'est un magazine catholique, et alors, par rapport aux catholiques pratiquants réguliers, 31%. Imagine rencontrer Dieu dans l'éternité, pense au paradis, pense à Dieu pour l'éternité, même pas un tiers. 11% des sondés pensent que le paradis après la mort sera le moment de rencontrer Dieu. Pour une majorité de nos contemporains, le paradis peut donc bien se passer de Dieu, du moment qu'on demeure le restant de sa vie éternelle avec ses amis. Plus étonnant, je trouve, cette conception semble avoir séduit une certaine majorité de pratiquants réguliers, ils sont que 31% à retenir la rencontre avec Dieu parmi les trois réponses choisies. C'est dingue. Voyez-vous, si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'avez pas le désir de le rencontrer, le ciel, c'est pas pour vous. Ce n'est pas le ciel qu'ils ont décrit, ces gens-là. Les 89% n'ont pas décrit le ciel. Ils ont décrit un lieu sans Dieu, avec leurs amis, mais sans Dieu. Et ça, ce n'est pas le ciel. C'est l'enfer. Si vous n'avez pas le désir de rencontrer Dieu, le ciel n'est pas pour vous, puisque le ciel sera rempli de Dieu. Vous imaginez, vous êtes dans ce cube, C'est la présence de Dieu parfaite, pleine, entière. C'est pas le lieu très saint qui symbolisait la présence de Dieu. Non, c'est la présence de Dieu. Et ça, c'est notre consolation qui est, c'est merveilleux. C'est-à-dire l'endroit dans lequel les hommes ne pouvaient pas aller parce que c'était un endroit qui symbolisait la présence de Dieu. Maintenant, ce lieu-là nous est ouvert. Et c'est pas simplement le symbole qui nous est ouvert, mais c'est la présence même de Dieu. Et c'est de vivre éternellement dans cette présence de Dieu qui remplira tout dans nos cœurs. Toute chose, toute pensée, tout désir, il sera satisfait parce qu'on sera dans la présence de Dieu. Tout sera parfait parce que Dieu est parfait. Tout sera beau, extraordinaire parce que Dieu est comme cela. Tout cela durera l'éternité parce que Dieu est éternel. On va pénétrer là-dedans et vivre éternellement là-dedans. Ce sera la satisfaction la plus totale. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Ça, c'est le psalmiste qui dit ça. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pour moi, m'approcher est de mon Dieu, c'est mon bien. Psaume 73. C'est magnifique. Si Dieu remplit nos cœurs aujourd'hui, alors on va aspirer encore plus au ciel. Quand on chantait tout à l'heure « Quel repos », ça disait « Après les travaux ». Ça me parle. « Après les combats », ça me parle. « Après la douleur », à jamais je pourrai voir ta face. Le ciel, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. Celui qu'on a cherché, celui qu'on a aimé. Et cette présence-là, elle nous est ouverte simplement par Jésus-Christ qui s'est livré à la croix pour nous. C'est le seul moyen d'entrer dans sa présence. C'est lui qui a déchiré ce voile qui séparait le lieu très saint et du reste. C'est lui qui nous donne accès à la présence de Dieu. Alors, je vous invite à faire comme le psalmiste, à chercher Dieu, à dire « Je ne prends plaisir qu'en toi ».